aujourd'hui les gens n'ont pas envie d'aller travailler, je suis désolée de le dire.
Espèce de chômeur.
Hôtel, café, restaurant,
je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Espèce de chômeur.
Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre.
Espèce de chômeur.
Alors c'est ça. Les chômeurs seraient des fainéants, des assistés, bien contents de ne rien faire. Dans Espèce de chômeurs, on met ces idées reçues à nu. On prend le temps d'écouter celles et ceux qui vivent le chômage, qui se battent et qui se relèvent. Des histoires de vie puissantes dans un podcast de solidarité nouvelle face au chômage. Vous êtes-vous déjà demandé si une personne méritait d'être au chômage ou si, à l'inverse, elle n'était pas en train d'en profiter? Le regard que l'on porte et que la société porte sur le chômage est empreint de cette question de la légitimité. En filigrane, ce que ça dit, c'est qu'il y aurait de bonnes et de mauvaises raisons d'être au chômage. Par exemple, l'apparition d'un handicap peut bouleverser toute une vie. Ça remet en question l'identité, le rapport au travail et la place dans la société. C'est ce qu'a vécu Caroline. Après une opération qui a bouleversé sa vie et un parcours ponctué d'arrêt maladie, elle a appris à justifier d'un trou dans son CV et à parler de son handicap. L'histoire de Caroline nous rappelle que le chômage est bien plus qu'un passage à vide. Il peut être une étape cruciale pour se reconstruire, se former, apprendre de nouvelles compétences, se réinventer et trouver sa juste place.
Je suis Caroline, j'ai 34 ans, j'ai été assistante sociale pendant 10 ans et suite à une période de chômage et d'arrêt maladie, j'ai repris mes études. Donc je suis actuellement dans les ressources humaines en développement RH et en parallèle en école de commerce. Après mes études de sciences, ne sachant pas trop quoi faire, j'ai été surveillante. Et finalement, la relation avec les jeunes, le fait d'essayer de comprendre où pouvaient être les difficultés, j'ai eu envie d'aller plus loin et le métier d'assistante sociale me semblait plutôt correspondre à ce genre de choses. Donc vraiment un métier de la relation et de l'analyse pour essayer de proposer des choses. J'ai eu un premier problème de santé en 2019, donc qui m'a conduit, là c'était une opération, qui m'a conduit à un arrêt de maladie, puis j'ai repris à temps partiel. Les choses ne se sont pas arrangées puisque là je suis devenue incontinente urinaire et fécale. Malgré tout, j'ai essayé de continuer le travail dans un contexte forcément où j'avais beaucoup d'examens médicaux puisqu'on cherchait la cause finalement de mes problèmes de santé, c'était vraiment de l'errance médicale. J'ai repris à temps plein mon travail, donc à ce moment-là j'étais dans l'asile. J'ai eu envie de changer, sans aucun lien avec mes problèmes de santé. J'ai passé des entretiens, fait une rupture conventionnelle et j'ai commencé en septembre 2019 un nouveau poste dans une collectivité, donc sur un statut contractuel en CDD, où là je travaillais avec des mineurs délinquants. Donc tout ça, ça a tenu. J'ai donc allé travailler avec des couches, c'était pas facile mais ça tenait. Continuer les rendez-vous médicaux, c'était un peu compliqué, mais en tout cas, j'arrivais à tout gérer de front jusqu'en janvier, où là, ça a été très compliqué. J'ai commencé un peu une petite chute, une petite descente aux enfers. Et donc, en janvier-février 2020, je me suis retrouvée en arrêt maladie. Cet arrêt maladie a été prolongé finalement tout le reste de mon contrat d'un an, ce qui fait qu'en septembre 2020, j'étais toujours en arrêt maladie et j'ai eu une non-reconduction de mon contrat, ce qui fait que j'étais au chômage, mais non inscrite au chômage, et toujours en arrêt maladie, mais sans emplois. En fait, cette situation, elle était bizarre hein, et en même temps, elle me rangeait un peu dans la catégorie de ce qu'on pourrait qualifier les bons chômeurs. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais senti le stigmate que peuvent avoir certains chômeurs où on est un feignant, on cherche pas du travail, quand on veut, on peut. Moi, finalement, tout le monde légitimait cette situation de se dire que j'étais pas au chômage, j'étais malade. Et finalement, j'avais presque le droit de ne pas travailler et encore plus le droit de ne pas chercher d'emploi. Mais paradoxalement, le fait d'avoir ces maladies qui en plus étaient devenues des handicaps, puisque bah, entre-temps, bien sûr, j'ai fait des démarches pour faire reconnaître mes pathologies comme étant un handicap, finalement a beaucoup légitimé ma période de chômage. Et je pense que si on demandait à mon entourage, ils m'ont jamais vue comme chômeuse, mais comme malade. Ma période de chômage, elle a duré un peu plus de 4 ans. Et ma recherche d'emploi en tant que telle, elle a duré quelques mois. Et là, j'en reviens finalement à cette question du bon et du mauvais chômeur. J'ai été capable de chercher du travail à un moment. Et c'était au moment finalement où j'ai commencé à chercher un emploi. Et avant, je n'en étais pas capable. Et dans le chômage, il y a toute une singularité des parcours. Et je pense qu'on ne peut pas se dire que chaque personne qui est au chômage devrait être en recherche d'emploi. Et pour ça, les institutions ne sont pas forcément non plus très aidantes, puisque il y a quand même une anecdote très drôle. C'est quand on s'actualise sur Pôle emploi tous les mois, il y a quand même une case qui note « je cherche toujours du travail ». Moi, dans mon cas, par exemple, donc comme je l'ai dit, j'étais en arrêt maladie et au chômage, mais non inscrite, parce que je n'étais pas en recherche d'emploi, puisqu'en arrêt maladie. Donc, Pôle emploi ne reconnaissait pas ma situation. Donc au bout de 4 ans, j'ai pu commencer à me projeter dans la recherche d'emploi. Donc ça s'est fait par plusieurs étapes. C'était clairement des étapes de guérison puisque dans mon cas, la problématique, c'était emploi et handicap finalement. Ce qui m'a conduit à ça, ça a été l'acceptation de ma situation. La compréhension aussi de ce que j'avais, la fin de l'errance médicale, mettre un nom sur ma pathologie, pouvoir trouver des choses pour me soulager. Alors, ma maladie, elle guérit pas, hein, c'est une dégénérescence médulaire, donc on sait pas, je connais pas l'avenir de ma maladie. Je sais aujourd'hui les organes qu'elle touche, je sais pas les organes qu'elle touchera demain. En tout cas, on est capable aujourd'hui de soigner les symptômes, donc c'est quelque chose qui fait que j'ai appris à vivre avec, finalement. Donc l'acceptation de tout ça, le fait aussi de faire des démarches administratives pour faire reconnaître ma situation et donc me faire connaître en tant que en situation de handicap. Et puis tout le cheminement qu'il peut y avoir aussi de travail sur soi, de remobilisation. Et à un moment, je me suis sentie capable d'aller au travail, de passer à autre chose, de tourner la page et surtout de me construire malgré ce que j'avais vécu. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment besoin d'aide parce que j'avais cette envie, mais j'avais aussi énormément de blocages puisque ces 4 ans de vide et de rien finalement avaient énormément altéré ma confiance en moi. J'avais l'impression que je valais plus rien, que les 4 ans de trous sur le CV c'était quelque chose d'insurmontable, que j'avais plus de compétences. Vraiment j'étais dans l'incapacité physique d'aller au-delà de l'envie. Cette question du trou dans le CV, moi, elle s'est posée même dès la rédaction du CV où je me demandais s'il fallait pas que je mente, en sachant très bien que c'était pas la bonne solution parce que le mensonge aurait été quand même assez facile à débusquer. Et ensuite, ce qui était encore plus effrayant pour moi, je pense, c'était de devoir en parler. C'est-à-dire que c'est une période où je pense que j'avais un peu fait la paix avec ce qui m'était arrivé, mais pas totalement. Et être amenée à en parler, il faut quand même pouvoir en justifier quelque part. Et en plus, ça m'était très en colère, parce que je trouvais très injuste que 4 ans dans un CV, si on est parti faire le tour du monde ou qu'on a élevé un enfant, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé et valorisant, et qui est valorisable, alors que la maladie pose plus de questions négatives, et je ne savais pas comment aborder les choses, sans pour autant qu'on se dise « mais si elle a été arrêtée 4 ans, est-ce que ça va pas être au nouveau le cas ? Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir pour avoir été arrêtée 4 ans ?» Donc c'était toutes les questions sous-jacentes que ça pouvait poser qui faisaient que j'étais pas forcément prête à affronter ça. Donc c'est à ce moment-là vraiment que j'ai eu besoin d'aide. Donc ce qui m'a aidée à un moment, c'est de me faire accompagner par un organisme extérieur. Dans mon cas, ça a été la SNC, donc une association qui aide les chômeurs. Et cette association, ce qu'elle m'a apporté, alors au-delà de l'aide très matérielle qu'elle pouvait m'apporter sur des relectures de l'aide de motivation, sur des conseils de CV, justement par rapport à ce trou qui, moi, était ma grosse angoisse, ça a été aussi deux très bons coachs qui m'ont vraiment montré que j'avais des compétences, que j'avais des qualités, et au-delà de ça, qui m'ont même aidé à tourner ce parcours de vie un petit peu atypique et pas forcément très gai en des compétences supplémentaires qui étaient hyper valorisables. Et pour ça, je les remercie énormément parce que c'est ce qui m'a permis finalement de franchir le cap à un moment, de me dire que bah non, tout n'était pas fichu et que je valais quelque chose encore sur le marché de l'emploi. Paradoxalement, ça a été presque une chance d'avoir ces 4 ans d'arrêt et d'avoir pour la première fois l'opportunité de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. C'est quelque chose que finalement on ne fait pas. Quand on sort de l'école, on fait des études, on va travailler. Et moi, ce temps de pause, il y a eu un moment où j'ai eu l'opportunité, je n'irai pas jusqu'à dire la chance, mais en tout cas l'opportunité de mettre ça à profit. Et de réfléchir à ce qui était vraiment important pour moi. La question de l'humain l'était, la question du sens de mon métier l'était. Donc ça m'a permis de construire un projet qui, je pense, me correspond vraiment. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est le côté coaching. C'est vraiment ce côté de l'écoute et surtout d'avoir un binôme au tempérament très différent et très adapté finalement à ce qu'il me fallait, à savoir quelqu'un qui me pousse et en même temps quelqu'un qui réfrène mes ardeurs. J'ai ce tempérament à toujours penser que je vais y arriver. Et d'autant plus que j'en ai pas parlé dans mes pathologies précédentes, mais en fait, il s'est avéré que la grosse dépression que j'ai faite en 2020 n'était pas qu'une simple dépression et que suite à des diagnostics, on s'est rendu compte que cette phase dépressive est en fait une phase dépressive dans le cas de la bipolarité. Et donc dans le cas de la bipolarité, forcément, c'est un trait de tempérament qui est exacerbé. La bipolarité, pour expliquer en quelques mots, même si on a différentes formes, donc c'est une maladie psychique, c'est une psychose qui touche, je crois, à peu près 1 ou 2% de la population mondiale et qui se caractérise par l'alternance de phases dépressives et des phases donc maniaques ou hypomaniaques. Moi, dans mon cas, j'ai pas connu la phase maniaque, j'ai connu que la phase hypomaniaque. Donc là, ça va être des phases plutôt surstimulantes, dans lesquelles on se sent un peu invincible, dans lesquelles on veut aller toujours plus vite, toujours plus haut, où les idées vont très très vite, où tout fuse, qui sont très agréables à vivre, on va pas se mentir, et c'est souvent ça qui fait que les bipolaires arrêtent leur traitement, mais par contre qui est toujours suivi d'une chute plus ou moins violente. Et donc c'est une maladie qui ne guérit pas, on est bipolaire à vie. Par contre, on peut être stabilisé via différents traitements. Moi, dans mon cas, c'est du lithium qui fait que mes variations d'humeur sont pas normal. J'ai toujours des phases plus hautes et plus basses que la moyenne des gens, mais par contre, qui sont non pathologiques et avec lesquelles je peux très bien vivre au quotidien. Quand j'ai eu mon diagnostic de bipolarité, j'étais en fin de contrat, en fin de CDD, effectivement dans ma grosse phase d'arrêt de travail de 4 ans. J'ai eu ce diagnostic à ce moment-là, en fait, ça a été très corrélé à mes pathologies physiques. Et donc j'avais vraiment besoin aussi de quelqu'un qui me canalise et qui puisse me dire « tu n'es pas obligé d'aller jusque-là, ce n'est pas grave ». La phase de coaching, elle m'a vraiment permis de franchir le cap, c'est-à-dire que je suis passée d'un projet de candidater dans des écoles de commerce et de candidater pour des postes en alternance à faire, c'est-à-dire à candidater dans des écoles de commerce et à candidater dans une entreprise. Et c'est surtout que j'avais l'impression d'avoir un filet de sécurité et que finalement l'échec était acceptable parce qu'il y avait des gens derrière pour me ramasser. Que toute seule, j'avais aussi cette crainte de me dire « mais si j'essaye et que j'y arrive pas et que j'en suis pas capable, qu'est-ce qui se passe ? Je retourne dans le néant ». Et c'était extrêmement dur pour moi. Parce que même si j'ai la chance d'être hyper entourée par ma famille, mon compagnon, mes amis, j'avais pas envie de leur faire porter un poids supplémentaire. Ils portent déjà le poids de mes maladies. Je sais qu'ils disent que c'est pas le cas, mais c'est comme ça que je le ressens. Moi, j'ai beaucoup de culpabilité à leur faire porter ce que je leur fais porter au quotidien. Et je me sentais pas capable de leur faire porter aussi ce risque de « si ça marche pas, qu'est-ce que je deviens ?» Et c'est vrai que d'avoir ce soutien, cet accompagnement, c'était aussi me donner ce filet de sécurité, de pouvoir débriefer d'un échec qui n'en était pas forcément un, et d'oser y aller parce que finalement, il n'y avait pas de drame, quoi. Mes candidatures ont été de deux sortes. C'était passer des concours pour les écoles de commerce. Donc j'en avais sélectionné 3-4. J'ai passé, 3-4 concours. Et puis la recherche d'une alternance, et là j'étais très déterminée, je savais ce que je voulais faire, c'est-à-dire que la RH c'est très vaste, mais j'ai cherché spécifiquement du développement RH et spécifiquement de la diversité inclusion, donc un tout petit périmètre finalement des ressources humaines pour travailler autour des questions de diversité dans l'entreprise, que ce soit l'égalité homme-femme, le handicap, la question LGBTQI+, l'intergénérationnel, etc. et j'ai ciblé des grands groupes. Pourquoi des grands groupes et pas des petites entreprises? Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup travaillé dans l'accompagnement. C'était aussi me donner l'opportunité de découvrir que finalement, mon handicap ne serait pas nécessairement un problème en emploi. Et aujourd'hui, il y a une réalité qui est que les grandes entreprises ont souvent des politiques handicap qui sont plus développées que les PME. Les grands groupes ont forcément plus de facilité à mettre en œuvre les accompagnements nécessaires au handicap. J'ai passé les concours, j'ai été reçue et j'ai choisi l'école qui me correspondait le mieux. Et au niveau des entretiens, j'en ai passé quelques-uns. Alors, comment se passaient les entretiens? Le premier, on s'était mis comme objectif d'en passer un dans une entreprise qui ne me plaisait pas forcément beaucoup. Pourquoi? Parce que malgré le travail préparatoire qu'on avait fait, j'avais quand même cette angoisse des 4 ans. Je savais qu'à la question « Présentez-vous, parlez-nous de vous » allait arriver ce et après 2020, qu'est-ce que j'ai fait? Et finalement, je me suis rendu compte que si je passais l'entretien, c'est qu'ils avaient vu sur mon CV qu'il y avait un trou de 4 ans et que, bah, a priori, ça ne leur posait pas un problème fondamental. Et qu'en expliquant simplement que ces 4 ans, ça a été une période compliquée pour moi et que c'était une période où j'ai dû prendre soin de ma santé, les questions n'allaient pas plus loin, mais surtout que, comme ils le savaient d'avance qu'il y avait ce trou de 4 ans, pour eux, c'était pas vraiment un sujet. Donc ça m'a beaucoup détendue et puis après, j'ai passé les entretiens dans les entreprises qui m'intéressaient vraiment. Et là, j'étais beaucoup plus détendue et je parlais de façon beaucoup plus fluide, je pense. Et ça me permettait surtout d'aborder la question des aménagements dont j'aurais besoin, puisque j'ai encore besoin d'aménagements aujourd'hui, principalement organisationnels. Et puis, à la suite des entretiens, donc en septembre 2023, j'ai intégré donc l'école de commerce pour 2 ans. Et donc, je suis en alternance dans une grande entreprise en région parisienne, donc en diversité inclusion, donc au sein d'un département de développement RH. Et donc, là, je suis en deuxième année de master, puisque mon école de commerce donc, avait un cursus de 2 ans et que j'ai eu l'opportunité de faire mon alternance dans la même entreprise sur les 2 années. Ma prise de poste, elle a été compliquée comme tout nouveau job, c'est-à-dire que forcément c'est fatigant, on a l'impression qu'on ne maîtrise pas les process, qu'il faut apprendre plein de choses. J'avais peur que ce soit encore plus difficile finalement de retourner dans le monde de l'emploi après 4 ans. Mais non, ça n'a pas été tant que ça. Alors peut-être que c'est aussi lié au fait que mon contrat, c'était un contrat d'alternance. Donc on attendait de moi que je sois là, certes pour produire, mais avec quand même un statut d'étudiante et donc d'apprenante. Donc c'est vrai que je ne serais pas forcément la mieux placée pour parler de la reprise d'emploi après une longue période de chômage. Mais c'est vrai que dans mon cas, finalement, ça a été un retour à la vie « normale » entre guillemets, qui s'est fait assez simplement. Mais par contre, ce qui a été excessivement important, c'est la question de l'utilité sociale. C'est la question toute bête, quand on croise des gens qu'on ne connaît pas trop à un dîner, à un mariage, au restaurant, que sais-je, c'est « toi, tu fais quoi dans la vie ?» Quand on est au chômage, c'est une question qui est excessivement gênante. Et moi, j'ai des souvenirs d'avoir menti, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourtant étaient dans mon entourage secondaire, qui tout mon arrêt de travail, et d'autant plus à la fin, quand j'ai recommencé à prendre une vie un peu sociale, étaient persuadés que si j'étais à la maison toute la journée, c'était parce que depuis le Covid, j'étais toujours en télétravail. J'étais pas capable de dire que non, j'étais en arrêt maladie, non, j'étais au chômage. Et là, c'était une vraie libération de pouvoir me dire « j'ai un travail, je peux me définir à travers ça », même si on n'est pas défini qu'à travers son travail, mais malgré tout, c'est quelque chose d'important. Et le soir, j'ai des choses à raconter. J'ai une place dans la société. Aujourd'hui, dans mon travail, mon parcours, il m'aide clairement sur mes fonctions RH. Dans un premier temps, il va m'aider sur la fonction diversité-inclusion, puisque forcément, je vais être beaucoup plus à même d'être dans l'empathie réelle et pas uniquement théorique, c'est-à-dire que je peux comprendre en tout cas la plupart des difficultés dont on va me parler. Et puis, sur la question du recrutement, même si j'en fais pas aujourd'hui, je pense que mon parcours serait un vrai plus. Par exemple, sur la question du trou dans le CV, j'aurais un regard plutôt bienveillant et empathique a priori, et non pas en tout cas en jugement de me dire « Oula, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a pu faire ?» cette expérience, qui n'est pas forcément heureuse, en tout cas, je peux en faire une opportunité dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Dans la question du chômage, et notamment du chômage de longue durée, il y a toujours la notion de regard que porte la société, de jugement qu'on peut porter, où le chômeur est nécessairement quelqu'un qui ne fournit pas d'efforts. Enfin, on a tous en tête les petites phrases de tous les niveaux. Hein. Il n'y a qu'à traverser la rue, ça vient quand même du plus haut, on va dire, de nos institutions. Mais c'est aussi, il y a du travail, ils ont qu'à faire des efforts, c'est des assistés. Et finalement, ce que j'espère avec ce témoignage, c'est aussi que les gens se rendent compte que derrière le chômage de longue durée, il y a aussi des parcours de vie. Et que j'ose espérer que personne ne trouvera pas légitime le fait que j'ai eu besoin de cette période de chômage de 4 ans pour remonter la pente, pour me reconstruire. Mais en fait, ma situation, je suis pas la seule à vivre ça. Et quand bien même les gens ne vivraient pas ça, il y a toujours un accident de vie derrière. Et il n'y a pas de notion de mauvais ou de bon chômeur. Il y a toujours une notion de qui est derrière, quelle est l'histoire de la personne. Et quand on est au chômage, il y a un temps pour tout. Il y a le temps de l'acceptation, le temps de la reconstruction. Et ensuite, seulement, on est capable finalement d'être dans une réelle recherche d'emploi. Et de toujours aller taper sur le fait que les gens au chômage ne sont pas des bonnes personnes, profitent du système et sont un peu le fléau de la société, on va dire. C'est aussi aller taper un peu plus sur la confiance en soi qui va forcément pas très très bien. Et je suis pas sûre que ce soit très aidant. Et à mon sens, en tout cas de ce que moi j'aurais pu en vivre, c'est quelque chose qui aurait même tendance à retarder la capacité à se retrouver vraiment dans la recherche active d'emploi. Et il faudrait essayer de le comprendre pour éviter de rajouter du stigmate au stigmate, quoi. Personnellement, avoir cherché du travail trop tôt juste pour prouver aux autres, aux yeux de la société que non, j'étais pas une feignante et oui, j'étais capable de trouver un emploi, ça aurait été contre-productif et je pense que j'en serais même pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais raisonné comme ça, pour la simple et bonne raison que j'étais pas en capacité de chercher du travail à ce moment-là. Et finalement, ça aurait été prendre le risque de prendre refus sur refus et de creuser un peu plus le déficit de confiance en moi. Et oui, je pense que ça aurait été vraiment contre-productif de chercher du travail juste pour répondre à une injonction sociétale. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis plutôt en paix avec ce que j'ai fait et je suis capable de dire que je suis fière de moi, je suis fière de mon parcours. En février, je vais avoir une très grosse opération, j'attends une grève de vessie. Mais en tout cas, j'arrive à jongler finalement entre mes maladies, un travail à temps plein, une reprise d'études. Et quand je regarde le chemin que j'ai parcouru par rapport à là où j'étais il y a 4 ans, je me dis que je peux être fière d'être là où je suis aujourd'hui.
C'était Espèce de chômeur. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à écouter les autres et à les faire découvrir autour de vous. Et pour en savoir plus sur l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, rendez-vous sur snc.asso.fr.